Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Qu'est-ce qu'un cimetière, une salle de cinéma, un jardin, un asile psychiatrique, une maison close ou encore une prison peuvent-ils bien avoir de commun ? En 1966, Robert Valette consacrait une série d'émissions au rapport entre l'utopie et la littérature. Dans ce cadre, il invitait des écrivains à proposer une réflexion sur le sujet. Le 7 décembre, Michel Foucault s'y collait et consacrait son intervention à ces lieux qu'il nommait des hétérotopies. Cimetières, salles de cinéma, jardins, maisons closes et prisons sont tous, sous le regard de Foucault, des hétérotopies ou utopies localisées, des utopies incarnées dans l'espace et dans le temps. Ce texte fut repris pour une conférence donnée par le philosophe l'année suivante à l'invitation du Cercle d'études architecturales de Paris. Il ne fut publié, avec l'autorisation de son auteur, qu'en 1984, dans le catalogue d'une exposition d'architecture à Berlin, et repris plus tard dans le dernier tome des 10 écrits du philosophe paru chez Gallimard. Mais rien ne vaut l'écoute de Foucault, le prononçant lui-même sur les ondes, avec l'extraordinaire talent de conteur qui était le sien. Écoutons donc Michel Foucault dans cette intervention diffusée pour la première fois dans l'Heure de culture française du 7 décembre 1966.
L'utopie et la littérature, une émission de Robert Valette. Première partie, littérature sur l'utopie. Aujourd'hui, deuxième émission, les utopies réelles ou lieux et autres lieux par Michel Foucault. Les textes d'illustration seront lus par René Farabet et Pierre Olivier.
Il y a donc des pays sans lieu et des histoires sans chronologie. Des cités, des planètes, des continents, des univers dont il serait bien impossible de relever la trace sur aucune carte ni dans aucun ciel, tout simplement parce qu'ils n'appartiennent à aucun espace. Sans doute, ces cités, ces continents, ces planètes sont-ils nés, comme on dit, dans la tête des hommes, ou à vrai dire, dans l'interstice de leurs mots, dans l'épaisseur de leurs récits, ou encore dans le lieu sans lieu de leurs rêves, dans le vide de leur cœur. Bref, c'est la douceur des utopies. Pourtant, je crois qu'il y a, et ceci dans toute société, des utopies qui ont un lieu précis et réel, un lieu qu'on peut situer sur une carte, des utopies qui ont un temps déterminé, un temps qu'on peut fixer et mesurer selon le calendrier de tous les jours. Il est bien probable que chaque groupe humain, quel qu'il soit, découpe dans l'espace qu'il occupe où il vit réellement, où il travaille, des lieux utopiques, et dans le temps où il s'affaire, des moments uchroniques. Voici ce que je veux dire. On ne vit pas dans un espace neutre et blanc, on ne vit pas, on ne meurt pas, on n'aime pas dans le rectangle d'une feuille de papier. On vit, on meurt, on aime dans un espace quadrillé, découpé, bariolé, avec des zones claires et sombres, des différences de niveau, des marches d'escalier, des creux, des bosses, des régions dures et d'autres friables, pénétrables, poreuses. Il y a les régions de passage, les rues, les trains, les métros. Il y a les régions ouvertes de la halte transitoire, les cafés, les cinémas, les plages, les hôtels. Et puis il y a les régions fermées du repos et du chez-soi. Or, parmi tous ces lieux qui se distinguent les uns des autres, il y en a qui sont, en quelque sorte, absolument différents. Des lieux qui s'opposent à tous les autres, qui sont destinés, en quelque sorte, à les effacer, à les compenser, à les neutraliser ou à les purifier. Ce sont, en quelque sorte, des contre-espaces. Ces contre-espaces, ces utopies localisées, eh bien, les enfants les connaissent parfaitement. Bien sûr, c'est le fond du jardin. Bien sûr, c'est le grenier. Ou mieux encore, la tente d'Indien, dressée au milieu du grenier. Ou encore, c'est le jeudi après-midi, le grand lit des parents. Eh bien, c'est sur ce grand lit qu'on découvre l'océan, puisqu'on peut y nager entre les couvertures. Et puis ce grand lit, c'est aussi le ciel, puisqu'on peut bondir sur les ressorts. C'est la forêt, puisqu'on s'y cache. C'est la nuit, puisqu'on y devient fantôme entre les draps. C'est le plaisir, enfin, puisque, à la rentrée des parents, on va être puni. Ces contre-espaces, à vrai dire, ce n'est pas la seule invention des enfants. Je crois tout simplement parce que les enfants n'inventent jamais rien. Ce sont les hommes, au contraire, qui ont inventé les enfants, qui leur ont chuchoté leurs merveilleux secrets. Et ensuite, ces hommes, ces adultes, ils s'étonnent lorsque les enfants, à leur tour, les leur cornent aux oreilles. La société adulte a organisé elle-même, et bien avant les enfants, ses propres contre-espaces, ses utopies situées, ces lieux réels hors de tous les lieux. Par exemple, il y a les jardins, les cimetières, il y a les asiles, il y a les maisons closes, il y a les prisons, il y a les villages du club méditerranéen, et bien d'autres. Eh bien, je rêve d'une science, et je dis bien une science, qui aurait pour objet ces espaces différents, ces autres lieux, ces contestations mythiques et réelles de l'espace où nous vivons. Cette science étudierait non pas les utopies, puisqu'il faut réserver ce nom à ce qui n'a vraiment aucun lieu, mais elle étudierait les hétérotopies, les espaces absolument autres. Et forcément, la science en question s'appellerait, elle s'appellera, elle s'appelle déjà l'hétérotopologie. Eh bien, de cette science qui est en train actuellement de naître, il faut donner les tout premiers rudiments. Premier principe. Il n'y a probablement pas une société qui ne se constitue son hétérotopie ou ses hétérotopies. C'est là une constante, sans doute, de tout groupe humain. Mais à vrai dire, ces hétérotopies peuvent prendre et prennent toujours des formes extraordinairement variées. Et peut-être n'y a-t-il pas, sur toute la surface du globe ou dans toute l'histoire du monde, une seule forme d'hétérotopie qui soit restée constante. On pourrait peut-être classer les sociétés, par exemple, selon les hétérotopies qu'elles préfèrent, selon les hétérotopies qu'elles constituent. Par exemple, les sociétés dites primitives ont des lieux privilégiés ou sacrés, ou interdits, comme nous-mêmes d'ailleurs. Mais ces lieux privilégiés ou sacrés sont en général réservés aux individus, si vous voulez, en crise biologique. Il y a des maisons spéciales pour les adolescents au moment de la puberté. Il y a des maisons réservées aux femmes à l'époque des règles, d'autres pour les femmes en couche. Dans notre société, ces hétérotopies pour les individus en crise biologique, eh bien, ces hétérotopies ont à peu près disparu. Remarquez qu'au XIXe siècle encore, il y avait les collèges pour les garçons, il y avait le service militaire aussi, qui jouait sans doute ce rôle. Il fallait que les premières manifestations de la sexualité virile aient lieu ailleurs. Et après tout, pour les jeunes filles, je me demande si le voyage de noces n'était pas une sorte à la fois d'hétérotopie et d'hétérochronie. Il ne fallait pas que la défloration de la jeune fille ait lieu dans la maison même où elle était née. Il fallait que cette défloration ait lieu en quelque sorte nulle part. Mais ces hétérotopies biologiques, ces hétérotopies, si vous voulez, de crise, disparaissent, je crois, de plus en plus, et elles sont remplacées par des hétérotopies de déviation. C'est-à-dire que les lieux que la société ménage dans ses marges, dans les plages vides qui l'entourent, ces lieux sont plutôt réservés aux individus dont le comportement est déviant par rapport à la moyenne ou à la norme exigée. De là, les maisons de repos, de là, les cliniques psychiatriques, de là également, bien sûr, les prisons. Il faudrait sans doute y joindre les maisons de retraite, puisque, après tout, l'oisiveté dans une société aussi affairée que la nôtre, l'oisiveté est comme une déviation, déviation d'ailleurs qui se trouve en l'occurrence être une déviation biologique quand elle est liée à la vieillesse. Et c'est une déviation, ma foi, constante pour tous ceux, du moins, qui n'ont pas la discrétion de mourir d'un infarctus dans les 3 semaines qui suivent leur mise à la retraite. Second principe de la science hétérotopologique, eh bien, Au cours de son histoire, toute société peut parfaitement résorber et faire disparaître une hétérotopie qu'elle avait constituée auparavant, ou encore en organiser qui n'existait pas encore. Par exemple, depuis une vingtaine d'années, la plupart des pays d'Europe ont essayé de faire disparaître les maisons de prostitution, avec un succès mitigé, on le sait, puisque le téléphone a substitué un réseau arachnéen et bien plus subtil à la vieille maison de nos aïeux. En revanche, par exemple, le cimetière, qui est pour nous, dans notre expérience actuelle, l'exemple le plus évident de l'hétérotopie. Le cimetière, c'est absolument l'autre lieu. Eh bien, le cimetière n'a pas toujours joué ce rôle dans la civilisation occidentale. Jusqu'au XVIIIe siècle, le cimetière, eh bien, il était au cœur de la cité. Il était disposé, là, au milieu de la ville, tout à côté de l'église, et, à vrai dire, on ne lui attachait aucune valeur bien solennelle. Sauf pour quelques individus, le sort commun des cadavres, c'était tout simplement d'être jeté au charnier sans respect pour la dépouille individuelle. Or, d'une façon très curieuse, au moment même où notre civilisation est devenue athée, ou du moins plus athée, c'est-à-dire à la fin du XVIIIe siècle, eh bien, on s'est mis à individualiser les squelettes. Chacun a eu droit à sa petite boîte et à sa petite décomposition personnelle. Et d'un autre côté, on a mis tous ces squelettes, toutes ces petites boîtes, tous ces cercueils, toutes ces tombes, ces pierres, on les a mis à part, on les a mis hors de la ville, à la limite des cités, comme si c'était en même temps un centre et un lieu d'infection et en quelque sorte de contagion de la mort. Mais tout ceci ne s'est passé, il ne faut pas l'oublier, qu'au XIXe siècle, et même dans le cours du Second Empire, c'est sous Napoléon III, en effet, que les grands cimetières parisiens ont été organisés à la limite des villes. Il faudrait aussi citer, et alors là, on aurait en quelque sorte une surdétermination de l'hétérotopie, les cimetières pour tuberculeux. Je pense à ce merveilleux cimetière de Menton, dans lequel ont été couchés les grands tuberculeux qui étaient venus, à la fin du XIXe siècle, se reposer et mourir sur la Côte d'Azur. Autre hétérotopie. En général, l'hétérotopie a pour règle de juxtaposer en un lieu réel plusieurs espaces qui, normalement, seraient, devraient être incompatibles. Le théâtre, qui est une hétérotopie, fait succéder sur le rectangle de la scène toute une série de lieux étrangers. Le cinéma, eh bien, c'est une grande salle rectangulaire au fond de laquelle il y a sur un écran qui est un espace à deux dimensions, un espace projeté qui est un espace à nouveau à trois dimensions. Vous voyez l'enchevêtrement des espaces qui se fait et qui se noue dans quelque chose comme une salle de cinéma. Mais peut-être le plus ancien exemple d'hétérotopie serait le jardin. Le jardin, création millénaire, qui avait certainement en Orient une signification magique. Le traditionnel jardin persan est un rectangle qui est divisé en quatre parties. Ces quatre parties représentent les quatre parties du monde, les quatre éléments dont le monde est composé. Et au milieu, au point de jonction de ces quatre rectangles, il y avait un espace sacré, une fontaine, un temple. Et autour de ce centre, toute la végétation du monde, toute la végétation exemplaire et parfaite du monde devait se trouver réunie. Or, si on songe que les tapis orientaux étaient à l'origine des reproductions de jardins, au sens strict du terme, des jardins d'hiver, on comprend la valeur légendaire des tapis volants, des tapis qui parcouraient le monde. Le jardin, c'est un tapis où le monde tout entier vient accomplir sa perfection symbolique, et le tapis, c'est un jardin mobile à travers l'espace. Était-il d'ailleurs parc ou tapis, ce jardin que décrit le conteur des mille et une nuits?
Ali Nour avait vu à Bagdad de bien beaux jardins, mais il n'en avait jamais rêvé de semblables à celui-ci. La grande porte était formée d'arcades superposées et couvertes de vignes grimpantes qui laissaient pendre lourdement de magnifiques grappes, les unes rouges comme les pierres de rubis, les autres noires comme l'ébène. L'allée où ils pénétrèrent était ombragée d'arbres fruitiers qui pliaient sous le poids de leurs fruits mûrs. Sur les branches, les oiseaux gazouillaient dans leur langue des motifs aériens. Le rossignol modulait ses airs. Le tourtereau roucoulait sa plainte d'amour. Le merle sifflait de son sifflet humain. Le pigeon à collier répondait comme enivré de liqueurs fortes. Là, chaque arbre fruitier était représenté par ses deux meilleures essences. Il y avait des abricotiers du Khorassan, des pruniers aux fruits couleur des lèvres, des mirabelles douces à enchanter, des figues rouges, des figues blanches, des figues vertes d'un aspect admirable. Quant aux fleurs, elles étaient comme les perles et le corail. Les roses étaient plus belles que les joues les plus belles. Les violettes étaient sombres comme la flamme du soufre brûlé. Il y avait les blanches fleurs du myrte. Il y avait des giroflées et des violiers, des lavandes et des anémones. Toutes leurs corolles avaient un diadème de rosée. Les camomilles souriaient de toutes leurs dents aux narcisses, et le narcisse regardait la rose avec des yeux profonds et noirs. Le cédrat arrondi était comme la coupe sans anse ni goulot. Les limons pendaient comme des boules d'or. Toute la terre était tapissée de fleurs par milliers, car le printemps était roi et dominait tout le bocage. Car les fleuves féconds s'enflaient et les sources tintaient et l'oiseau parlait et écoutait. Car la brise chantait comme une flûte, le zéphyr lui répondait avec douceur et l'air résonnait de toute la joie.
On voit que toutes les beautés du monde viennent se recueillir en ce miroir. Le jardin, depuis le fond de l'Antiquité, est un lieu d'utopie. On a peut-être l'impression que les romans se situent facilement dans des jardins. C'est qu'en fait, les romans sont sans doute nés de l'institution même des jardins. L'activité romanesque est une activité jardinière. Il se trouve que les hétérotopies sont liées, le plus souvent, à des découpages singuliers du temps. Elles sont parentes, si vous voulez, aux hétérochronies. Bien sûr, le cimetière est le lieu d'un temps qui ne s'écoule plus. D'une façon générale, dans une société comme la nôtre, on peut dire qu'il y a des hétérotopies qui sont les hétérotopies du temps quand ils s'accumulent à l'infini. Les musées, les bibliothèques, par exemple. Au XVIIe et au XVIIIe siècle, les musées et les bibliothèques étaient des institutions singulières. Ils étaient l'expression du goût de chacun. En revanche, l'idée de tout accumuler, l'idée, en quelque sorte, d'arrêter le temps, ou plutôt de le laisser se déposer à l'infini dans un certain espace privilégié. L'idée de constituer l'archive générale d'une culture. La volonté d'enfermer dans un lieu tous les temps, toutes les époques, toutes les formes et tous les goûts. L'idée de constituer un espace de tous les temps, comme si cet espace pouvait être lui-même définitivement hors du temps, c'est là une idée tout à fait moderne. Le musée et la bibliothèque sont des hétérotopies propres à notre culture. Il y a en revanche des hétérotopies qui sont liées au temps, non pas sur le mode de l'éternité, mais sur le mode de la fête. Des hétérotopies non pas éternitaires, mais chroniques. Le théâtre, bien sûr, et puis les foires. Ces merveilleux emplacements vides au bord des villes, quelquefois même au centre des villes, et qui se peuplent une ou deux fois par an de baraques, d'étalages, d'objets hétéroclites, de lutteurs, de femmes serpents et de diseuses de bonne aventure. Il y a, plus récemment dans l'histoire de notre civilisation, les villages de vacances. Je pense surtout à ces merveilleux villages polynésiens, qui, sur les bords de la Méditerranée, offrent trois petites semaines de nudité primitive et éternelle aux habitants de nos villes. Les paillotes de Djerba, par exemple, sont parentes en un sens des bibliothèques et des musées, puisque ce sont des hétérotopies d'éternité. On invite les hommes à renouer avec la plus ancienne tradition de l'humanité. Et en même temps, ces paillotes sont la négation de toute bibliothèque et de tout musée, puisqu'il ne s'agit pas, à travers elles, d'accumuler le temps, mais au contraire de l'effacer et de revenir à la nudité, à l'innocence du premier péché. Il y a aussi, parmi ces hétérotopies de la fête, ces hétérotopies chroniques, il y avait plutôt, la fête de tous les soirs dans la maison close d'autrefois, la fête qui commençait à 6 heures du soir comme dans La fille Elisa.
À la nuit, la maison au gros numéro, morne et sommeillante pendant le jour, s'allumait et flambait par toutes les fenêtres, comme une maison enfermant un incendie. 10 lustres multipliés par 20 glaces plaquées sur les murs rouges projetaient dans le café, dans le long boyau du rez-de-chaussée, un éclairage tombant comme une douche de feu sur les cervelets des buveurs. Au fond, tout au fond de la salle resserrée et profonde et ayant l'infini de ses corridors de lumière d'un grossier palais de féerie, confondues, mêlées, épaulées les unes aux autres, les femmes étaient ramassées autour d'une table dans une espèce d'amoncellement pyramidant et croulant. À l'une des extrémités, une femme assise de côté, les jambes allongées sur la banquette et soutenant un peu de l'effort de son dos l'affaissement du groupe, épuçait une chatte qui tenait une patte raidie arc-boutée sur un de ses seins. Au comptoir, au milieu des fioles colorées, reflétées dans une grande glace, trônait la maîtresse de maison. Coiffée d'une magnifique chevelure grise relevée en diadème et où demeurait encore une jolie nuance de blond cendré, la vieille femme, qui avait quelque chose d'une ancienne marquise de théâtre, était habillée d'une robe ressemblant à une tunique de magicienne. Une robe de satin feu avec des appliques de guipure. Debout, un coude posé sur le comptoir, son mari, un tout jeune homme aux favoris corrects, une grosse chaîne d'or brinque-ballant à son gilet et frêle et charmant dans une veste de chasse, faisait, au bout d'une longue baguette, exécuter des sauts à deux petits chiens savants.
Enfin, d'autres hétérotopies sont liées non pas à la fête, mais au passage, à la transformation, au labeur d'une régénération. C'était au XIXe siècle les collèges et les casernes qui devaient faire d'enfants des adultes, de villageois des citoyens et de naïfs des déniaisés. Il y a surtout de nos jours les prisons. Enfin, je voudrais poser comme cinquième principe de l'hétérotopologie ce fait. C'est que les hétérotopies ont toujours un système d'ouverture et de fermeture qui les isole par rapport à l'espace environnant. En général, on n'entre pas dans une hétérotopie comme dans un moulin. Ou bien on y entre parce qu'on y est contraint, les prisons évidemment. Ou bien lorsque l'on s'est soumis à des rites, à une purification. Il y a même des hétérotopies qui sont entièrement consacrées à cette purification. Purification mi-religieuse et mi-hygiénique, comme dans les hammams des musulmans. Et il y a des purifications qui ont l'air apparemment hygiéniques et seulement hygiéniques, comme le sauna des Scandinaves, mais qui entraînent avec elles tout un tas de valeurs religieuses ou naturalistes. Il y a d'autres hétérotopies, au contraire, qui ne sont pas fermées sur le monde extérieur, mais qui sont pure et simple ouverture. Tout le monde peut y entrer, mais à vrai dire, une fois qu'on y est entré, on s'aperçoit que c'est une illusion et qu'on est entré nulle part. L'hétérotopie est un lieu ouvert, mais qui a cette propriété de vous maintenir au dehors. Par exemple, en Amérique du Sud, dans les maisons du XVIIIe siècle, il y avait toujours, ménagé à côté de la porte d'entrée, mais avant la porte d'entrée, une petite chambre qui ouvrait directement sur le monde extérieur et qui était destinée aux visiteurs de passage. C'est-à-dire que n'importe qui, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, pouvait entrer dans cette chambre, pouvait s'y reposer, pouvait y faire ce qu'il voulait, il pouvait partir le lendemain matin sans être vu ni reconnu par personne, mais dans la mesure où cette chambre n'ouvrait en aucune manière sur la maison elle-même, l'individu qui y était reçu ne pouvait jamais pénétrer à l'intérieur de la demeure familiale même. Cette chambre était une sorte d'hétérotopie entièrement extérieure. On pourrait comparer à cette chambre, eh bien, celle des motels américains, où on entre avec sa voiture et sa maîtresse, et où la sexualité illégale se trouve à la fois abritée et cachée, tenue à l'écart, sans être pour autant laissée à l'air libre. Enfin, il y a des hétérotopies qui semblent ouvertes, mais seules y entrent véritablement ceux qui sont déjà initiés. On croit qu'on accède à ce qu'il y a de plus simple, de plus offert, et en fait, on est au cœur du mystère. C'est du moins de cette manière-là qu'Aragon, autrefois, entrait dans les maisons closes.
Encore aujourd'hui, Ce n'est pas sans une certaine émotion collégienne que je franchis ces seuils d'excitabilité particulière. J'y poursuis le grand désir abstrait qui parfois se dégage des quelques figures que j'ai jamais aimées. Une ferveur se déploie. Pas un instant, je ne pense au côté social des lieux. L'expression « maison de tolérance » ne peut se prononcer sérieusement. C'est au contraire dans ces retraites que je me sens délivré d'une convention en pleine anarchie, comme on dit en plein soleil. Oasis. Rien ne me sert plus alors de ce langage, de ces connaissances, de cette éducation même par lesquelles on m'apprit à exercer au cœur du monde. Mirage ou miroir, un grand enchantement luit dans cette ombre et s'appuie au chambranle des rivages dans la pose classique de la mort qui vient de laisser tomber son suaire. Oh, mon image d'os, me voici, que tout se décompose enfin dans le palais des illusions et du silence.
C'est là sans doute qu'on rejoint ce qu'il y a de plus essentiel dans les hétérotopies. Elles sont la contestation de tous les autres espaces, et cette contestation, elles peuvent l'exercer de deux manières. Ou bien, comme dans ces maisons closes dont parlait à l'instant Aragon, en créant une illusion qui dénonce tout le reste de la réalité comme illusion, ou bien au contraire, en créant réellement un autre espace réel, aussi parfait, aussi méticuleux, aussi arrangé que le nôtre est désordonné, mal agencé et brouillon. C'est ainsi qu'ont fonctionné, au moins dans le projet des hommes, pendant un certain temps, au XVIIIe siècle surtout, les colonies. Bien sûr, ces colonies, on le sait, avaient une grande utilité économique, mais il y avait des valeurs imaginaires qui leur étaient attachées. Et sans doute ces valeurs imaginaires étaient-elles dues au prestige propre des hétérotopies. C'est ainsi qu'au XVIIe, au XVIIIe siècle, les sociétés puritaines anglaises ont essayé de fonder en Amérique des sociétés absolument parfaites. C'est ainsi que, à la fin du XIXe siècle, au début encore du XXe siècle, Lyautey et ses successeurs dans les colonies françaises ont rêvé de sociétés hiérarchisées et militaires. Sans doute la plus extraordinaire de ces tentatives fut-elle celle des jésuites au Paraguay. Au Paraguay, en effet, les jésuites avaient fondé une colonie merveilleuse dans laquelle la vie tout entière était réglementée, le régime du communisme le plus parfait régnait, puisque les terres appartenaient à tout le monde, les troupeaux appartenaient à tout le monde, seul un petit jardin était attribué à chaque famille. Les maisons étaient disposées en rang régulier le long de deux rues qui se coupaient à angle droit. Sur la place centrale du village, il y avait l'église au fond. D'un côté, il y avait le collège. De l'autre côté, il y avait la prison. Les jésuites réglementaient du soir au matin et du matin au soir méticuleusement toute la vie des colons. L'Angélus sonnait à 5 heures du matin pour le réveil. Puis il marquait le début du travail, puis la cloche rappelait à midi les gens, hommes et femmes, qui avaient travaillé dans les champs. À 6 heures le soir, on se réunissait pour dîner, et à minuit, la cloche sonnait à nouveau. C'était la cloche qu'on appelait du réveil conjugal, car les jésuites tenaient essentiellement à ce que les colons se reproduisent, et ils tiraient allègrement tous les soirs sur la cloche pour que la population puisse proliférer. Elle le fit d'ailleurs, puisque de 130 000 au début de la colonisation jésuite, eh bien, les Indiens étaient devenus 400 000 au milieu du XVIIIe siècle. On avait là l'exemple d'une société entièrement fermée sur elle-même, qui n'était rattachée par rien au reste du monde, sauf par le commerce et les bénéfices considérables que faisait la société de Jésus. Avec la colonie, on a une hétérotopie qui est en quelque sorte assez naïve pour vouloir réaliser une illusion. Avec la maison close, on a en revanche une hétérotopie qui est assez subtile ou habile pour vouloir dissiper la réalité avec la seule force des illusions. Et si l'on songe que le bateau, le grand bateau du XIXe siècle, est un morceau d'espace flottant, un lieu sans lieu, vivant par lui-même, fermé sur soi, libre en un sens, mais livré fatalement à l'infini de la mer, et qui, de port en port, de quartier à fille en quartier à fille, de bordée en bordée, va jusqu'aux colonies, chercher ce qu'elle recèle de plus précieux en ces jardins orientaux qu'on évoquait tout à l'heure, on comprend pourquoi le bateau a été pour notre civilisation, et ceci depuis le XVIe siècle au moins, à la fois le plus grand instrument économique et notre plus grande réserve d'imagination. Le navire, c'est l'hétérotopie par excellence. Les civilisations sans bateau sont comme les enfants dont les parents n'auraient pas un grand lit sur lequel on puisse jouer. Leurs rêves alors se tarissent, l'espionnage y remplace l'aventure, et la hideur des polices, la beauté ensoleillée des corsaires.
Vous venez d'entendre L'Utopie et la littérature, une émission de Robert Valette. Première partie, littérature sur l'utopie. Au cours de cette seconde émission, Michel Foucault traitait des utopies réelles ou lieux et autres lieux. Les textes d'illustration étaient lus par René Farabet et Pierre Olivier.
Cette émission a été diffusée pour la première fois le 7 décembre 1966. Vous pouvez la réécouter ou la télécharger en ligne sur le site franceculture.fr.